With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce nouvel épisode, je vous propose un petit voyage à Montréal pour faire la rencontre de Raphaël, non-binaire et pansexuel. Évoluant dans la communauté queer, il a à cœur de se poser régulièrement des questions sur le genre, la sexualité et son évolution. D'un point de vue plus intime, Raphaël prendra le temps de raconter ses histoires d'amour et les partenaires qui ont jalonné sa vie, notamment une relation toxique qui va engendrer de nombreux traumas et ranimer chez lui une peur de l'abandon douloureuse. Également, il se confie sur la sexualité compliquée qu'il vit en ce moment avec sa partenaire avec qui il est depuis 3 ans. Tous deux ont partagé un début de vie sexuelle épanouissant, mais depuis le confinement de 2020 et une certaine pandémie qui ne vous aura pas échappé, ils vivent conjointement une très forte baisse de libido et n'ont quasiment plus de rapport intime. Du micro-cheating à la déconstruction du schéma traditionnel que ce Français d'origine a souhaité faire, de son cheminement queer à ses daddy issues, Raphaël dévoile son intimité avec beaucoup d'authenticité, d'ouverture d'esprit et de nuances si chères à sa quête personnelle. Je vous souhaite une excellente écoute et je profite d'avoir un tout petit peu votre attention pour vous demander de soutenir le podcast, si vous le souhaitez évidemment, sur Apple Podcast en laissant un avis des étoiles. J'en ai reçu récemment et je vous assure que c'est un bonheur absolu. Bonne écoute! Pour ce nouvel épisode, je suis avec Raphaël. Raphaël qui a des centaines de milliers de kilomètres de moi, puisque Raphaël, tu es à Montréal. Ça va,
oui,
Raphaël ?
Exactement, oui, ça va très bien et toi ?
Oui, ça va super. Raphaël, tu as 30 ans et c'est important pour toi, je crois, de parler au micro de On the Verge.
Oui.
Avant voilà, de connaître ton histoire, tu vas partager avec les auditeurs et les auditrices ton tout premier souvenir lié à la sexualité.
Évidemment, je m'attendais à cette question, comme j'ai écouté tous les épisodes. Je dirais mon tout premier souvenir. Quand j'avais 4 ans, mon oncle m'avait fait voir Le silence des agneaux. Je ne sais pas si tu te rappelles film absolument...
Bien sûr. J'adore ce genre de film.
Pas adapté du tout à un enfant de 4 ans.
Mais voilà ce que j'allais te dire. Par contre, pas du tout adapté.
Donc, j'ai très peu de souvenirs, à part, je pense... C'est des scènes où il arrache la peau des gens, il s'en fait un manteau ou quelque chose comme ça.
C'est ça, il se fait une. En fait, c'est tiré d'un vrai serial killer.
Ouais.
Je n'ai plus le nom. Et pourquoi tu le raccordes à la sexualité ?
Parce que je pense qu'il y a des scènes où, tu sais, il met sa bite entre ses jambes.
Ouais, exactement.
Tu sais, je me rappelle de ça et quand j'étais tout petit, il y a toujours eu un tabou dans notre famille au niveau sexuel, mais j'avais dit à mon frère, oh, regarde, je suis une fille et tout, et j'avais mis ma petite bite d'enfant entre mes jambes aussi. Mon frère m'avait dit, non, faut pas faire ça, c'est pas bien et tout. Enfin voilà.
Faut pas toucher son zizi.
Bref, tu sais, c'est tout le tabou qu'il y a autour de la sexualité. Puis il m'a dit, t'as un zizi, t'es pas une femme, et c'est comme ça.
Et donc chez toi, on parlait pas de sexualité librement ?
Pas du tout, pas du tout, du tout.
Pas
du tout, c'est bizarre parce que mes parents sont très ouverts à ces sujets-là, mais chez nous, en tant que famille, en tant que frère et sœur, donc j'ai un grand frère et un petit frère et une petite sœur qui sont jumeaux, et on n'en parle pas du tout, du tout, du tout. Et donc, avec mon frère qui vit avec moi ici à Montréal, on n'en parle jamais non plus.
Okay.
Et avec mon petit frère, on a commencé à en parler il y a un an et c'est d'ailleurs super bien parce qu'il y a beaucoup de tabous qui tombent et c'est vraiment cool. Et avec ma sœur, ben, on a vaguement survolé des sujets, mais pas, comment dire, pas sexuels, plus sur le fait de mon orientation sexuelle, plus sur le fait de mon identité de genre, mais pas du tout sur de la sexualité. Donc, on n'a jamais parlé de sexualité à la maison, quoi.
Ok. Et justement, tu parles de ton orientation. C'est quelque chose que tu as raconté à ta famille, à tes parents ?
Donc, à mes parents, à ma mère, je l'ai laissé comprendre. Je n'ai pas fait de coming out officiel, mais je lui ai fait comprendre, on va dire. À ma petite sœur, j'ai fait mon coming out et c'est tout.
Okay.
J'ai failli faire mon coming out à mon petit frère dernièrement, mais je n'ai pas eu le courage. Ça ne s'est pas fait.
Et ton frère avec lequel tu vis ?
C'est un peu particulier parce qu'il a un rapport très étrange aux relations. C'est quelqu'un qui vit tout seul depuis toujours et il est que famille, tu vois, il n'a pas vraiment d'amis autour de lui.
Il est très introverti.
Très introverti. Et là, je pense qu'il voit quelqu'un en ce moment, mais tu vois, on n'en parle même pas. Tu sais, il me dit, bah, je ne serai pas là de telle heure à telle heure, et c'est tout.
Ah ouais.
Le fait qu'il ne me donne pas d'indication sur où il va ou qui il voit, j'en déduis que c'est une fille ou un garçon ou quelqu'un qui voit, tu sais, mais c'est vraiment, on n'en parle pas du tout, alors que moi, je vis ici avec ma partenaire dans le même immeuble que lui, et on vit ensemble et c'est su, tu sais, il n'y a pas de tabou à ce niveau-là, mais il doit avoir une idée, mais on n'en a jamais parlé en tout cas.
Je me mets à la place des auditeurs et auditrices qui entendent ton coming out et tu viens de dire que tu vis avec ta partenaire. Donc, pour ceux qui suivent le mieux, c'est que tu as fait un coming out bisexuel.
Oui, bisexuel. Je dirais plus pansexuel que bisexuel. Mais bon, on peut le résumer bisexuel pour les personnes qui ont moins de vocabulaire queer, si je puis dire.
Et bien, justement, ce serait intéressant que tu parles de cette subtilité entre la bisexualité et la pansexualité.
Ouais. Donc, je vais dire la définition que je comprends et qui est celle que j'accepte. C'est donc bisexuel. Si tu parles de bisexualité, c'est que tu parles de binarité de genre. Donc, il y a les hommes, les femmes, il y a deux genres et tu es attiré par les deux genres ou par les deux sexes même. C'est encore plus génital, si on veut. Et pansexuel, c'est plus d'être attiré par la personne avant son genre. Donc, tu peux être attiré par des personnes trans, par des personnes non-binaires comme moi, par exemple, des personnes hommes, femmes, n'importe quoi. Et donc, c'est vraiment la personne avant le genre, finalement. Donc, ouais, c'est ça la petite différence, quoi. C'est, les gens qui sont un petit peu moins éduqués sur le vocabulaire queer diront bisexuel, et les personnes... Il y a des débats dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui se réapproprient le terme bisexuel aussi, donc je ne veux pas créer de conflit, mais c'est ça, moi je suis pansexuel et c'est comme ça que je me définis.
Ah, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, quand tu parles d'identité de genre et de fluidité du genre
de
aussi,
genre,
etc., c'est vrai que du coup, on comprend beaucoup mieux que on ne sait pas noir ou blanc, c'est toutes les nuances de gris dans ta pansexualité.
Exactement. Ben, c'est d'ailleurs... la façon dont je m'identifie en général, pas que sur le plan du genre, c'est la non-binarité, mais à tous les niveaux finalement. C'est-à-dire qu'il y a, à mes yeux, rien n'est vraiment binaire, tout est tout le temps une zone de gris entre les deux. Tu vois, dans les films à Hollywood, t'as toujours le gentil et le méchant, t'as toujours le bien et le mal. En politique, t'as la droite et la gauche, ou l'extrême droite et l'extrême gauche, puis on donne jamais le pouvoir à être... un peu au milieu de tout
plus nuancé,
exactement. Donc, ma perception de tout en général est assez non-binaire. Donc,
Je te rejoins là-dessus, même effectivement, entre deux personnes, il n'y en a jamais un qui a complètement tort et un qui a complètement raison.
Oui, exactement. C'est une question de point de vue, de
où
tu as été élevé, dans quel milieu social, dans quelle famille, avec quel trauma. En tout cas, c'est un cumul de 10 000 facteurs qui fait que toi, tu as raison, puis l'autre personne a aussi raison, mais vous n'avez pas la même raison, on va dire.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Raphaël, comment tu grandis ? Donc, tu grandis en France, tu m'expliques que tu as commencé à voyager à l'âge de 20 ans. Donc,
ouais,
tu fais ta primaire, ton collège et lycée, une voie artisanale, donc un peu différent.
Ouais, professionnelle, ouais.
Et comment ça se passe, l'entrée dans la puberté ?
Comme je te disais, j'ai un grand frère qui a 2 ans de plus que moi, et j'ai aussi un cousin qui a 4 ans de plus que moi, donc il y a... un écart de 2 ans entre nous trois. Et je pense que mon début de la sexualité, ça a été quand moi, j'avais 7 ans, mon frère 9 et mon cousin 11. Et que mon cousin nous a montré comment se masturber, en fait.
OK.
Et donc, c'est ça, je pense, le premier contact avec la sexualité, vraiment. Et l'entrée dans, pas la puberté, parce que j'étais vraiment un enfant à 7 ans encore.
Lui, il était tout prépubère, en plus.
Ouais, c'est ça. Mais il avait déjà un pénis beaucoup plus grand et plus gros qu'un enfant de mon âge, par exemple. Donc, ouais.
Il le faisait comme un défi, comme un jeu.
C'était plus éducatif, en fait. Et je pense qu'on avait trouvé un vieux Playboy chez ma grand-mère dans l'ancienne chambre de mon oncle. Et donc, ouais, c'était ça.
Que tu commences à rentrer dans les prémices de la masturbation alors que tu es encore enfant. Ouais. Comment ça va se passer, l'entrée dans la prépuberté ?
J'ai jamais trop arrêté de me masturber depuis que j'ai 7, 8, 9, 10, 11. Mm-hmm. Après, à 12 ans, j'ai eu accès à Internet, je pense, à 12 ou 13 ans. Mais jusqu'à là, tu vois, je me masturbais tout le temps un petit peu. Genre, je ne saurais pas te dire une fréquence, mais c'était quelque chose qui existait dans ma vie. Et après, quand Internet est arrivé chez moi, bah, ça a tout changé, c'est clair.
Et puis en plus, tu avais l'âge où ça changeait aussi intérieurement, chimiquement.
Ouais, bah ouais, c'est ça. J'ai eu ma première éjaculation à 12 ans, puis ça a été l'épiphanie. Ça a été vraiment. Je m'en rappelle exactement dans ma chambre. Genre, je peux te décrire ma chambre à ce moment-là, exactement.
Tu as fait une photo de cet instant.
Exactement, ouais. Okay. Et donc là, après, j'ai plus jamais arrêté de me masturber. Genre, c'était mon hobby, mon passe-temps préféré, quoi.
Tu regardais quoi comme porno ?
En 2000, c'était quoi, 2003, 2004, c'était tout ce qu'il y avait. Mm-hmm. C'était pas l'époque où il y avait des mots-clics ou comment on dit, des mots-clés, pardon, ou des hashtags ou des trucs comme ça. C'était allé sur, à cette époque-là, même moi, j'allais sur Emule et je tapais n'importe quoi, mm-hmm. des noms de films, et tu tombais tout le temps sur des trucs complètement incroyables, genre des orgies allemandes ou des trucs en Tchécoslovaquie, genre des trucs un peu fous. Et après, j'ai commencé à taper ben, un peu tout.
T'en parlais avec les copains d'école ?
Ouais, vachement. Avec deux copains précisément, parce que les autres étaient vachement gamins. Et moi et ces deux copains, on était vachement plus développés
plus
au niveau de l'intérêt.
Déjà.
Ouais, c'est ça. Et ben, d'ailleurs, je trouve ça un peu triste, parce que j'ai l'impression d'avoir manqué un petit peu de l'innocence de l'enfance. Mm-hmm. C'est genre moi, depuis que j'ai 7 ans... Tout ce qui m'intéressait, c'était parler de cul, parler des filles qui me plaisaient. Et je cachais qu'il y a des mecs qui me plaisaient aussi, mais genre, c'est quelque chose qui habitait mon esprit aussi. Donc, tu vois, 7 ans, c'est un peu trop jeune, je trouve, pour être confronté à ça.
C'est jeune, oui, effectivement. Mais tu penses que c'est dû à ton cousin qui vous a, entre guillemets, montré la voie, ou c'était déjà quelque chose avant ça ?
Non, mais je pense que ça fait partie de ma personnalité aussi, de ouais. vouloir toujours comprendre les choses et connaître les choses. Et déjà, quand j'étais petit, j'étais très, très curieux. Mm-hmm. Quand on m'a exposé à ça, bah, je me suis dit, bah, je veux connaître le plus de choses possibles sur ce sujet, mais pas forcément plus qu'un autre sujet, mais quand même, c'était un peu interdit, c'était tabou et tout. Donc, c'était quand même cool de chercher dans cette direction-là aussi.
Tu as cette puberté qui est quand même assez intense et que tu vis pleinement. Comment ouais. vont se passer les premiers flirts ? Est-ce que tu es dans un environnement où tu vas facilement vers les filles ? Bah, les garçons, tu dis que ça reste secret pour le moment ?
Donc non, pas du tout, du tout, du tout. J'étais la personne la plus timide de l'univers. J'étais ultra timide. Donc j'avais mes copains avec qui on discutait de ça. On allait les uns chez les autres et tout. On se masturbait les uns chez les autres ensemble et tout, le fameux.
Ah oui, le collectif.
Exactement, ouais. Mais non, les filles, je pense que la première fois que j'ai fait la bise à une fille du collège, j'étais en quatrième, donc tu vois, j'avais 13 ou 14 ans, et ça, c'était la première bise, là. C'est pas le premier flirt ou le premier... C'était la première fois que j'adressais vraiment la parole à une fille, j'avais ouais, 13 ans, je pense.
Qu'est-ce qui te faisait peur ?
Je saurais pas dire, vraiment. Non, je sais pas. Je pense que c'est un cumul de mon éducation et de... Je sais pas trop. Par contre, j'étais tout le temps très amoureux. Tout le temps depuis le CP, je pense. Donc le CP, il y a eu Isabelle en premier. Après, il y a eu Marine. Sixième, cinquième, il n'y avait pas grand... Il n'y avait pas une personne spécifique, mais genre, j'avais des crushs un peu sur tout le monde. Et après, en quatrième, il y en a eu deux ou trois dans ma classe où j'étais éperdument amoureux. Mais genre, je pensais qu'à ça, c'était un peu obsessif. Et voilà, ça a duré comme ça jusqu'à ce que je quitte le collège, en fait.
Donc, tu arrives au lycée. Est-ce que avec tes copains, là, vous commencez un peu à vous rapprocher des filles ?
Ben, comme je te disais, j'ai fait un cursus professionnel.
Ah oui, c'est vrai.
En tant que boulanger, donc les filles, il n'y en avait pas beaucoup. D'ailleurs, il y en avait deux dans ma classe, dont une qui a été officiellement ma première copine. Et c'est rigolo parce que donc mon meilleur ami de cette époque-là me disait « J'ai l'impression que tu es avec elle pour nous prouver quelque chose. Ah. » Et moi, ça me faisait chier parce que je savais exactement ce que j'essayais de prouver. Lui, il ne savait peut-être pas, je ne sais pas exactement.
Peut-être qu'il le sentait.
peut-être qu'il sentait, mais c'est clair que j'étais avec elle pour prouver quelque chose. Et ben, c'est évident, même maintenant, de mon point de vue d'adulte. Comme elle avait bien voulu m'embrasser et être avec moi, ben, j'étais dit, oh, ben, cool, maintenant j'ai une copine, ils ne pourront plus dire que je suis pédé, c'est trop cool.
Donc voilà. Tu es sorti avec elle parce qu'effectivement, elle était OK.
Ouais, c'est ça, elle a bien voulu, donc je fais, ah, ben, cool. C'était la première fille qui voulait bien. Et j'étais plus détendu, j'étais moins timide aussi quand je suis arrivé chez les compagnons. Donc ouais, elle a bien voulu, on s'est embrassé un petit peu et c'est tout, quoi. Mais au moins, j'avais une copine, j'avais un alibi.
T'avais coché la case, ça y est, t'étais sorti.
Ouais, exactement. C'est clair. Hétéro, ça y est.
Vous restez un petit peu ensemble ?
Peut-être 2 semaines ou quelque chose comme ça. Ça n'a vraiment pas été significatif, ouais. Et après, ben, comme j'étais quand même assez timide, j'étais porté à aller sur MSN beaucoup. Et donc là, j'ai commencé à discuter avec plein de gens, notamment plein de filles. Et tout d'un coup, tout est devenu hyper facile. Genre avec mes mots, avec ma façon d'écrire et tout, c'était devenu super simple. Ouais. Ben, ma vie a changé du tout au tout dans ma perception de moi-même. J'étais plus le gars qui aurait jamais personne dans sa vie. J'étais enfin quelqu'un qui avait accès à pratiquement n'importe qui, finalement. Mm-hmm. Et donc, ben, c'était trop cool, quoi.
Et donc, comment ça se passe ? Tu parles avec ces filles d'un point de vue amical et puis tu les séduis ou ça se fait plus naturellement ? Comment tu...
Non, c'était pas naturel du tout. C'était plus même en mode, j'avais un objectif, c'était d'avoir une conversation sexuelle. Il fallait trouver un moyen pour comment engager cette conversation et comment aboutir à mes fins. Genre, mes fins étant me masturber en lisant ce que la fille avait écrit, par exemple. Pas d'intention amicale, j'avais pas d'intention amoureuse non plus. Je voulais juste un contact sexuel, même s'il n'était que virtuel, quoi.
Et donc, tu as réussi à avoir quelques, on va dire, copines digitales, ouais. Comme ça ?
Ouais, plusieurs, ouais. Et c'est ça, jusqu'au jour où, sur un forum, j'ai rencontré une fille. Et là, j'ai commencé à ressentir un peu d'amour, quoi, de l'intérêt pour elle.
À l'époque, c'était que par écrit, hein. Il n'y avait pas de...
C'était que par écrit, ouais. Elle habitait à...
Ouais, t'avais pas de webcam et tout.
Non, même pas, ouais. Donc, on avait les photos et tout, mais oui. Ça, c'est 2007 quand je l'ai rencontré.
Donc, vous nourrissez des sentiments tous les deux, là, ça commence à être...
Ouais, là, ça commence à devenir quelque chose. On commence à s'écrire tous les jours, à s'envoyer des textos. Moi, j'étais en apprentissage, donc je finissais à travailler à midi. À midi, je lui écrivais tout de suite, puis jusqu'à ce que je me couche le soir et tout. Donc, il y a quelque chose qui est né. Tu vois, j'avais accès éventuellement à avoir une sexualité avec d'autres filles avant. Ouais. Mais je me disais, non, je veux être amoureux de la personne avec qui je vais faire ma première fois. Et donc là, ça se présentait bien parce que j'avais accès à elle dont j'étais amoureux et qui montrait de l'amour envers moi. Mm-hmm. Et qui semblait avoir aussi du désir sexuel pour moi. Donc c'était le combo parfait, quoi. Et donc, elle est venue en 2007, je pense, qu'on s'est vus. Et donc voilà. C'est arrivé ma première fois à ce moment-là.
Avec cette fille ? Ça a été quand, ouais. Quand tu l'as rencontrée pour la première fois parce que vous n'étiez pas encore vus ? Et est-ce que le cœur qui bat, les mains moites ?
Ah ouais, c'est clair. J'avais le cœur qui battait à 500 km/h. Je transpirais et tout. On s'est embrassés tout de suite. On ne s'est même pas parlé quand on s'est vus.
Waouh.
Ouais, bah parce qu'on se connaissait tellement finalement. Ça faisait des mois et des mois qu'on se parlait des dizaines d'heures par jour. Donc,
vous n'avez pas été déçus ?
Ben, moi, de mon côté, non. Après, je ne pense pas qu'elle non plus. Parce qu'on est restés 5 ans ensemble après, donc je pense que ça...
En effet.
Ouais.
Ouais, ça... Ou alors elle a bien géré, mais sinon...
C'est ça.
Ok, donc... Ah oui, 5 ans, bah, c'est une super histoire, du coup. C'était ta première belle histoire.
Ben, si j'avais été plus éduqué sur sur l'amour en général, je ne serais jamais resté avec elle aussi longtemps.
Et pourquoi, d'ailleurs ? Tu l'expliques ?
Ouais, parce que, en fait, moi, dans ma tête, j'avais un peu des schémas de « tu trouves quelqu'un ». C'est la sécurité. Et une fois que tu es avec cette personne, tu es avec cette personne toute ta vie. Donc, tu te maries, tu fais des enfants, etc. Mais j'avais 15 ans. J'avais 16 ans quand on s'est vu la première fois. Et moi, dans ma tête, c'était évident. Genre, on allait se marier, on allait avoir des enfants, on avait des prénoms pour les enfants. On avait genre, un plan de vie qui était détaillé.
Et vos parents respectifs, là-dessus, vous accompagnaient ou vous étiez plutôt...
Ouais, parce qu'on venait d'un milieu... social un peu similaire, donc c'était assez rassurant. Et donc mes parents et ses parents se sont rencontrés après peut-être 1 ou 2 ans et ils s'aimaient bien. Mais ils vivaient chacun à un bout de la France, donc ils n'avaient pas l'occasion de se voir beaucoup. Mais tu vois, ma mère l'aimait beaucoup, mon père aussi, et elle faisait partie de la famille après quand on a vécu ensemble et tout, quoi.
Oui, c'est un vrai truc quand les parents, et la belle famille s'investit aussi dans ces relations. Ouais, parce que du coup, tu te sens un peu obligé,
soutenu,
quoi.
Ouais, exactement.
Et obligé.
Ouais, et puis je pense que c'est pas mal un truc. Je sais pas si c'est que de classe sociale, mais tu vois, des gens comme moi qui ont un métier artisanal, un métier peu éduqué. Elle était quand même à l'université et tout, mais de parents qui n'avaient pas fait d'études non plus. Puis c'est un schéma un peu à l'ancienne, tu vois, de gens qui se mettent tôt ensemble. Et moi, dans ma tête, on allait ouvrir une boulangerie ensemble et, tu vois, acheter une maison. Et ça me semblait tout à fait rationnel à 16 ans, quoi.
Ouais. Donc, comment ça se passe, cette sexualité avec cette jeune fille?
Ben, le tout début, la première fois, il s'est passé une chose qui ne s'était jamais passée avant. Il n'y avait personne chez moi le deuxième jour où elle était à Toulouse. Donc, comme on est 6 chez moi, ça n'arrive jamais qu'il n'y ait personne normalement, surtout
c'était
un week-end.
Fenêtre.
Donc, c'était vraiment la fenêtre, tu vois, l'éclipse solaire, je sais pas quoi, qui arrive une fois tous les 15 000 ans, ben c'est tombé pile à ce moment-là. Donc, ben on est allé chez moi, on a couché ensemble plusieurs fois. Et le soir, je lui avais dit de réserver un hôtel juste à côté de chez moi. Mais il fallait que je m'enfuie de la maison et il fallait pas que mes parents le sachent. Du coup, j'ai demandé à mon grand frère, avec qui il y a ce tabou incroyable de sexualité, donc il a dû comprendre ce qui se passait, mais on n'en a pas parlé. Et donc à 11h le soir, je suis parti de la maison par la fenêtre de mon frère.
Il t'a couvert?
Et il m'a couvert, je suis parti à l'hôtel à côté de chez moi, j'ai pris le métro de nuit. C'était un peu bizarre parce que c'est la seule fois de ma vie où je suis parti comme ça de la maison la nuit, avec juste mon frère qui me couvrait, mes parents qui n'étaient pas du tout au courant, donc ils n'avaient même pas de matériel pour être inquiets, genre c'était fou, quoi. Et donc, on a été à l'hôtel, on a couché plusieurs fois ensemble encore, et voilà, c'était trop bien. C'était l'euphorie, quoi. Donc voilà, elle avait 3 ans de plus que moi. Donc tu vois, moi j'avais 16 ans, elle avait 19 ans.
Et quand tu rentres dans ta vie active sexuellement avec elle, c'est quoi tes premiers souvenirs? C'est quoi tes premiers ressentis? Le corps féminin, par exemple?
Ah bah, c'était trop bien. Genre, c'est ce que j'avais vu des millions de fois sur Internet, mais j'y avais accès, puis... Elle avait envie de le faire avec moi, genre c'est le Disneyland, genre c'est trop bien, tu sais. Comme tu dis plusieurs fois dans tes podcasts, c'est gratuit et tu as accès à volonté, genre c'est fou, tu sais. Genre, et pour quelqu'un qui a grandi comme moi avec très peu de confiance en soi et tout, tu dis, mais c'est incroyable, elle veut bien, genre, puis à chaque fois que j'ai envie, elle veut bien, puis on couche, genre c'est euphorisant, ça s'arrête jamais, c'est trop bien, quoi. Malheureusement, j'ai eu l'éducation sexuelle uniquement par le porno, donc je pense qu'elle, elle n'a pas dû être très très satisfaite pendant 5 ans, même je pense qu'elle n'a pas été satisfaite du tout. Mais pour moi, c'était incroyable, genre je couchais quand je voulais avec quelqu'un qui me plaisait, genre c'était, et quelqu'un que j'aimais aussi, genre c'était vraiment un combo incroyable.
Et donc pendant 5 ans, comment va évoluer votre sexualité de jeune ado, début de vie d'adulte?
Ben, c'est à ce niveau-là que je dirais que j'aurais pas dû rester avec elle. C'est parce que dans la grosse partie de ma tête, il fallait que je reste avec elle, il fallait que je sois avec elle. C'était la femme de ma vie, donc il fallait qu'on fasse notre vie ensemble et tout. Seulement, j'avais du désir pour plein d'autres gens à côté. Comme je savais que j'avais cette faculté à écrire à des personnes et d'avoir des conversations sexuelles, ben, j'ai mis ça à exécution des dizaines et des dizaines et sûrement des centaines de fois. Et donc... c'est de la tromperie, même si c'est pas physique, c'est clairement de la tromperie. Donc, nos 5 ans, ça a été presque que ça, quoi.
Vous avez fait ce qu'on appelle le micro-cheating?
Ouais, bah là, c'était macro-cheating. C'était, je faisais vraiment que ça. Genre, je lui écrivais à elle et en même temps, à côté, j'écrivais à d'autres personnes sur des conversations sexuelles. Genre,
donc, des conversations
fou,
sexuelles,
quoi.
C'est quoi? C'est que t'as un rapport sexuel par écrit? C'est que tu dragues la
c'est... Bah, c'est un peu un mélange de tout ça, ouais. Puis j'aimais bien m'adapter à chaque nouvelle personne, donc c'était trop bien. C'est toujours quelque chose que j'aime, tu vois, de le flirt et la découverte par l'écriture. Genre, j'adore lire des messages qui expriment l'excitation de l'autre personne que j'ai créée. Genre, je trouve ça incroyable.
L'histoire se termine au bout de 5 ans?
Ouais, mais elle s'est terminée 1000 fois entre-temps, parce qu'elle s'en est rendue compte 1000 fois entre-temps, mais j'ai réussi à la rattraper 1000 fois et... Voilà, je lui ai fait énormément de mal. C'est horrible. Alors, ben, j'étais pas assez éduqué pour le savoir non plus, mais voilà, je lui ai fait beaucoup de mal. J'ai réussi à la reprendre plein de fois, alors que j'aurais dû la laisser dès le début, mais c'est ça. Et donc, après 5 ans, entre-temps, une fois on s'est séparés, j'ai décidé de venir vivre à Montréal. Après 3 semaines à Montréal, je me suis rendu compte qu'elle me manquait, donc j'ai décidé que je revenais. Je suis revenu pendant 6 mois vivre chez elle, à l'autre bout de la France, donc c'était hyper particulier de vivre à Troyes, tu vois, comparé à Toulouse, c'est vraiment un monde différent, quoi. Et donc j'ai rien fait pendant 6 mois, je suis resté sur le canapé à attendre qu'elle revienne du travail, genre c'était un peu horrible, quoi. Et donc je rentrais à Toulouse une fois par mois à peu près, et un jour je suis rentré, puis j'ai rencontré une autre fille, et là ben, j'ai décidé que c'était fini, quoi.
Ouais.
L'histoire se termine définitivement là en 2011, et donc je rencontre une autre fille, et là je reste 4 ans avec elle.
T'es un gars des relations longues aussi.
Ouais, exactement, ben, j'ai fait presque que ça sur toute ma vie.
Ok, donc t'enchaînes 4 ans avec cette jeune femme, comment se...
Ouais.
Se passe, parce que là, tu as un petit peu plus d'expérience sexuelle, notamment avec ta première partenaire.
Ouais.
Les hommes là-dedans, tu continues à...
J'ai des crushs, mais je consomme pas de pornographie gay.
Ouais, ce que j'allais te demander.
Donc, tu vois, je commence à m'intéresser à la culture queer.
Mais tu processes le fait que les mecs te plaisent? Ou t'en fais un non-sujet?
J'en fais un non-sujet, parce que ma sexualité avec les filles me suffit amplement. Donc, je m'identifie en tant que personne queer à partir de, assez jeune en fait, hein, depuis 16 ou 17 ans.
Mm-hmm.
Mais ma sexualité avec les filles me comble suffisamment pour ne pas avoir à aller du côté des garçons, quoi.
Alors, pardon de poser cette question, mais comment... est-ce que tu es légitime en tant qu'homme hétéro, cis, de te sentir proche de la communauté queer?
Je suis ni un homme hétéro, ni un homme cis, ni... Ben, je suis non-binaire et je suis pansexuel, donc je
oui,
rentre dans
à ce
aucune
moment-là,
des cases.
Je parle de à ce moment-là quand tu as 16-17 ans. Hein.
Ouais,
je
non, mais
je
m'identifie déjà comme... Tu vois, je sens que j'ai de l'attraction, je sens que j'ai des crushs, je sens... C'est pas forcément un désir sexuel, mais je sens que j'ai une attirance envers des hommes ou... J'ai toujours eu aussi beaucoup d'attirance envers les filles très masculines ou les hommes trans. J'ai toujours aimé ce qui est au bord du genre, en fait. Alors, les hommes très féminins ou les femmes très masculines. Mais j'aime aussi les hommes très masculins et j'aime aussi les femmes très féminines. Mais je dirais que ce que je préférais à cette époque-là, c'était les femmes très masculines et les hommes très féminins. Moi, à mes yeux, j'étais au milieu, tu vois. J'étais attiré par les hommes très féminins et... Dans ma tête, il y avait une espèce de binarité de genre aussi. Tu sais, je me disais, il y a les hommes, les femmes, et il y a quelque chose au milieu. Il y a une petite limite. Et moi, ce que j'aime, c'est tout ce qui est autour de cette limite-là. Puis...
D'accord. C'est ça que je voulais te demander. Hein, c'est que j'ai bien compris ta non-binarité et ta pansexualité.
Ouais.
Loin de moi l'idée de vouloir te mettre dans cette étiquette de mec, cis, hétéro. Mais c'était plus la question à 16-17 ans, quand tu te rapproches justement de ce milieu queer. Qu'est-ce qui te fait... sentir proche de cette communauté, tu viens d'y répondre, c'est que déjà là, tu aimais bien flirter, ou en tout cas
ouais,
les limites de
bien...
genre.
Ouais, et j'avais beaucoup de crush sur plein de types de mecs différents. Mais ça n'a jamais été une attirance physique, ça a toujours été telle personne, je ne sais pas trop pourquoi, est-ce que c'est un charme, est-ce que c'est sa personnalité ou quelque chose, mais ça a toujours existé, donc j'ai réussi à le verbaliser ou à le conscientiser en tout cas. Et donc je me suis presque toujours... perçu dans la communauté queer, finalement.
Ok. Donc, en 2011-2012, donc tu commences ta nouvelle relation avec cette jeune femme. Comment vous allez appréhender votre sexualité? Parce que, pareil, là, bon, t'es au milieu de la vingtaine, donc peut-être un peu plus sûr de toi, un peu plus
phase
avec ta sexualité.
Ouais, donc c'était mieux, je dirais, que ma première relation dans le sens sexuel, parce que c'est quelqu'un qui avait plus de désir sexuel, puis... C'était plus fou, même si j'accorde peu d'importance au physique, elle me plaisait plus physiquement aussi, donc c'était un cumul de choses que je trouvais qui était mieux qu'avant. Par contre, j'ai pas trop arrêté non plus de discuter avec d'autres filles à côté, et donc ça a ruiné aussi la confiance dès le début.
Ah, elle a découvert aussi ?
Ouais, ça a été une relation hyper toxique. des deux bords, je dirais. C'était,
alors, pourquoi elle était toxique ? Est-ce que tu arrives à le résumer ?
Parce qu'on était à des niveaux différents de nos vies. Et moi, j'étais devenu vachement plus confiant en moi. J'avais vécu à Montréal, j'avais commencé à vivre mes rêves et tout. Et elle était encore presque... Elle avait qu'un an de moins que moi, mais elle était presque enfant encore. Mmh. Elle n'avait rien fait trop de sa vie et tout. Et j'ai l'impression qu'elle avait vachement de jalousie par rapport à ça.
Dans ton mouvement, dans ton énergie, elle arrivait pas.
Ouais, c'est ça. Moi, j'étais
Est-ce que
genre...
tu avais déjà ton mulet ?
Non.
Parce qu'il faut savoir que Raphaël porte un mulet, mais comme personne ne porte le mulet, quoi.
C'est vrai, ouais.
Un look
on se croirait à San Francisco dans les années
exact.
70.
T'étais confiant ? T'étais bien ?
Ouais, c'était la meilleure période de ma vie, ça, quand je suis parti de Troyes et que je suis revenu à Montréal quelques semaines et jusqu'à ce que je me remette avec cette fille-là. Genre, c'était vraiment la meilleure période, quoi. J'étais hyper confiant, tout était simple, genre, c'était vraiment bien, quoi.
Mmh. Et sexuellement, ça se passait comment ?
Sexuellement, c'était génial. Seulement, j'ai toujours été affecté par le côté psychologique et elle avait vachement d'emprise sur moi psychologiquement.
Mmh.
Et donc, j'ai passé 4 ans absolument horribles que j'ai nourri aussi. Hein. Je ne mets pas du tout toute la faute sur son dos. C'était, comment dire, c'est quelque chose que j'ai accepté aussi dans un sens. Je sais pas trop le définir, mais...
Quand tu dis qu'elle a de l'emprise, c'est-à-dire que...
Elle a recréé, par exemple, de la jalousie chez moi, quelque chose que je m'étais totalement débarrassé après ma première relation. J'avais assez réussi à déconstruire la jalousie, puis je m'étais dit non, ça sert à rien. Puis elle, en quelques semaines, elle a réussi à me rendre jaloux, mais genre à mort, quoi. Genre, j'étais devenu abominable, quoi. Genre, j'avais des paroles et des pensées vraiment horribles. Genre, je voulais tuer ses ex et tout. Genre, j'étais devenu complètement fou. Ouais, ouais. Et du coup, ça me ressemblait pas du tout. Du coup, je me détestais. C'était vraiment horrible comme période.
Elle avait cassé l'élan dans lequel tu étais, en plus.
Ouais, ouais, ouais. Tu vois, cet élan-là d'hyper-positivité, d'hyper-confiance en moi et tout. En quelques semaines, ça a été brisé. Puis ça a duré sur 4 ans. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment horrible. Ouais.
Vous aviez une sexualité qui était plutôt teintée quand vous engueuliez ou au contraire, c'était que quand vous alliez bien ? Comment vous arriviez à trouver votre...
Je pense que c'était dissocié des conflits et des... Ouais, je pense qu'on avait une sexualité assez régulière quand ça allait bien, mais ça allait pas très souvent bien. Donc, je me rappelle m'être dit plusieurs fois, c'est fou, j'ai jamais eu plus que 10 jours sans avoir la paix, sans avoir une grosse tempête d'engueulade qui arrive, quoi.
Et dans vos pratiques, est-ce que vous avez découvert des choses ensemble ? Parce que tu sortais du coup d'une relation, on va dire, adolescence, début de vie adulte. Là, tu étais plus dans la vie adulte.
Après, avec ma première copine, on avait fait... Moi, j'avais l'impression que j'avais tout fait déjà, donc j'avais fait... Mais tu vois, en fait, dans ma tête, je m'étais fait une petite liste. Alors, je m'étais dit, alors... Le 69, donc ça, on l'a fait le premier jour. Alors ça, c'est coché. La fellation, le cunnilingus, c'est fait. Après quelques temps, je ne me rappelle plus, on avait fait la sodomie. J'étais, voilà, c'est fait. Mais après, j'étais, tous les trucs courants, on les a fait, donc je n'ai plus rien à découvrir. Dans ma tête, c'était comme ça, quoi, à 17-18 ans. Et donc, avec ma deuxième copine, on a refait toutes ces choses-là, un peu plus kinky, un peu plus, un peu moins vanille. C'était plus dans l'excitation, beaucoup dans les messages et tout aussi. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a vachement plu, comme je disais avant. Donc, c'était super. C'était super, c'était hyper épanouissant, mais le côté psychologique de la relation était vraiment...
était pas simple, quoi.
Ouais, exactement, ouais, c'était affreux.
Et donc, au bout de 4 ans, ça s'arrête parce que vous êtes épuisé de vous engueuler tout le temps ? Comment ça se...
C'est ça, au bout de 4 ans, on se sépare. Et c'est ça, moi, je viens vivre à Montréal avec mon frère à ce moment-là.
Et donc, là, ça va faire combien de temps que tu es à Montréal ?
En mai, ça va faire 5 ans, là.
Ok. Et alors, une fois que tu es arrivé célibataire, dans quel état d'esprit tu étais ?
Je me suis mis sur Tinder immédiatement. Et j'ai passé 6 mois avec 0 rencontre, 0 date.
Alors, en parlant de Tinder, je vais faire un espèce de petite dédicace à Marie, dont je te parlais tout à l'heure, qui vit aussi à Montréal et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est d'ailleurs la créatrice du logo On The Verge. Et Marie, au-delà d'être une personne formidable, est très très drôle et partage souvent en story sur son compte Insta les Tinder canadiens et notamment pourquoi, je vais te poser la question à toi, pourquoi ils posent tous avec un poisson mort dans les mains.
C'est horrible parce que du coup moi je suis sur le Tinder bisexuel et donc j'ai accès à ces gens là.
Tu les as vus aussi?
Ouais, c'est fou, c'est incroyable. C'est ça, et soit ça, soit le motoneige, quoi.
Mais exactement.
Mais c'est vrai que c'est rigolo, parce que du coup, j'ai été sur Tinder quand j'étais à Strasbourg, donc t'as, comment dire, la faune française avec la culture française. Et quand je suis arrivé à Montréal, toutes les meufs, c'est des photos sur la montagne en train de parler de leur randonnée et tout. Et tous les mecs, c'est avec le poisson, la casquette et les lunettes de soleil. C'est incroyable. Mais c'est fou, t'as l'impression de voir le même profil. Et comme je te disais, j'ai passé 6 mois à galérer. Du coup, j'ai vu des milliers de profils parce que je passais une demi-heure ou une heure tous les soirs à regarder des profils. C'était
et du coup, tu parlais avec ces gens-là quand même?
Très peu. J'avais pas vraiment de match en fait. J'avais l'impression d'être un peu transparent. C'est un peu le.
Parce que t'avais pas de poisson, peut-être.
mais j'aurais dû être original justement de pas avoir de poisson. Je vais faire un petit saut dans le futur par rapport à cette époque-là. Je me suis remis après sur Tinder plus tard. Quand j'avais les cheveux roses et que mon profil écrivait genre queer as fuck et tout, genre. Et si t'es perçu comme un mec hétéro, t'as vachement moins de succès que si t'es perçu comme une personne queer ou comme un homme bi ou quelque chose comme ça. Du coup, j'ai passé 6 mois avec 0 match. Puis quand j'ai mis ces photos-là avec les cheveux roses et écrit queer, une bio queer, quoi. Mais là, je suis resté qu'une semaine, je pense, et j'ai eu 5 dates en 5 jours ou quelque chose comme ça. J'ai pas eu de rapport sexuel excessif, mais j'avais accès à une sexualité quotidienne, genre avec des personnes différentes tous les jours, ce qui était totalement pas le cas. Donc à cette époque-là, quand je suis arrivé à Montréal.
Donc tu t'es arrivé à Montréal, tu es sur Tinder, pendant 6 mois tu galères à trouver des dates. Comment tu vas sortir de cette spirale?
Je vais rencontrer 2 filles en même temps sur Tinder, 2 filles qui me répondent en même temps, et donc je vais voir la première qui est en couple et qui a des enfants mais qui trompe son copain. Je passe la journée avec elle, on va au cinéma, on va chez sa mère, on couche ensemble. Donc j'étais, ah ça y est, je me suis remis en selle, ça y est, je reprends confiance en moi. Et là je rentre, je prends le métro et j'arrive à ma station de métro, et il y a la deuxième fille qui me dit viens chez moi tout de suite. Je te paye le taxi, et donc j'ai pris le taxi.
Un scénario.
Je suis allé chez elle, on a couché ensemble, et le soir j'étais, mais c'est fou, genre, j'ai couché avec 2 personnes aujourd'hui alors que j'ai couché avec personne depuis 6 mois, quoi.
Et comment ça se passe alors d'appréhender ces nanas avec qui tu vas juste coucher, parce qu'on n'est pas dans tes relations passées avec du sentiment, avec de la relation?
Ça s'est pas passé comme ça, parce que justement comme j'ai eu accès à ça, je me suis dit il faut pas que je le lâche, donc je me suis mis en couple avec une des deux pendant 1 an et demi.
Donc celle qui n'avait pas d'enfant.
Celle qui n'avait pas d'enfant, ouais.
Mais qui avait trompé son mari.
Ouais, c'est ça. Mais qui avait beaucoup de chats.
Beaucoup de chats.
Ouais. Quand je suis arrivé, elle en avait 5. Puis à un moment, elle en a eu jusqu'à 9 entre celles qu'elle gardait et tout.
Comment va se dérouler votre intimité?
Au début, les premiers jours, ça semble incroyable parce que justement, j'ai été abstinent contre mon gré pendant des mois. Donc c'était trop bien. Puis à un moment, je me suis rendu compte qu'elle avait besoin de boire énormément d'alcool pour avoir des rapports sexuels. Ouais. Donc à la première date, ça ne m'avait pas trop choqué. Oui. Puis à la deuxième, troisième, puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est bizarre, elle est... Parce que moi, je bois très, très peu d'alcool. Et du coup, je me dis, mais elle est complètement bourrée. Une fois que je mourais plus d'envie d'avoir des rapports sexuels, une fois que j'étais un peu comblé, donc après 2-3 jours, je me suis dit, mais... En fait, c'est hyper chelou. J'ai pas du tout envie d'avoir de rapport avec quelqu'un qui est pas totalement conscient. Au niveau du consentement, c'est un peu chelou. Après, elle a fonctionné comme ça pendant des années. Elle rencontrait un gars différent chaque soir, tout le temps, tout le temps avant moi.
Tu sais pourquoi elle était dans cette consommation?
Ouais, elle a beaucoup de problèmes avec ses parents, notamment. Ils l'ont très mal éduquée. Ses parents sont des toxicomanes. Donc, c'est des gens qui consomment des produits, des drogues dures, genre de l'héroïne, des choses comme ça, mais qui sont capables de travailler. Donc, ils travaillaient dans les ministères à Ottawa, tu vois. Et ils ne l'ont pas vraiment éduquée, en fait. Comme ils avaient assez d'argent, dès qu'elle avait des problèmes, ils lui filaient plein d'argent pour qu'elle règle ses problèmes toute seule. Et donc, ouais, elle a beaucoup de problèmes financiers et des problèmes, bah, tu vois, avec les chats, c'est pareil. Elle avait 9 chats. Toutes les associations l'ont bannie pour pas qu'elle puisse adopter d'autres chats et tout. Quand on s'est rencontrés, elle m'a dit qu'elle avait rencontré 50 mecs en 2 mois avant moi, tu vois. Et donc, on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble. Et quand on s'est séparés, on s'est revus quelques mois après. Puis elle m'a dit qu'elle avait déjà recouché avec 50 autres mecs aussi. Et même si je me suis mis avec elle, j'ai jamais été amoureux d'elle.
D'accord.
Et j'ai jamais été vraiment accroché. C'était plus pour combler une peur d'abandon et une peur d'être seul qu'autre chose que j'étais avec elle.
Mais quand tu restes 1 an et demi avec elle, c'est ta compagne, c'est exclusif ou...
Ouais, malheureusement, ouais. C'était... Ouais, mais c'est con parce que j'avais accès à plein d'autres relations. Surtout, j'étais à Montréal, donc une capitale queer et tout. J'aurais pu vraiment m'épanouir à ce moment-là, mais pas du tout, en fait. J'avais... Encore ce besoin de schéma-là, d'être avec une personne exclusive. Et oui, même si ça ne se passe pas bien.
Visiblement, elle n'est pas très, très bien avec elle-même.
Ouais, c'est ça. Elle a plein de problèmes et tout. Ça remplissait quelque chose en moi. En tout. Je rentrais à la maison, c'était chiant et dur et nul. Et après, je repartais au travail et c'était bien. Donc, je travaillais beaucoup un peu pour compenser ça. Quoi.
Donc, 1 an et demi, vous vous séparez. La sexualité, ouais. Donc, ça se passe comment ?
Ben, au début, c'était vraiment bien, mais quand je me suis rendu compte de ce problème d'alcool-là, ben, j'ai vachement réduit mon intérêt sexuel. Puis au bout d'un moment, ça marchait plus du tout. On a été quelques fois voir une thérapeute de couple.
Ah ouais?
Ouais, ça a toujours été... Parce qu'avec celle d'avant aussi, on avait vu une thérapeute de couple. Et ça avait toujours été à mon initiative, parce que j'avais l'impression d'avoir besoin de la réparer ou de la soigner, tu vois. Et donc, on a été voir une thérapeute de couple 3 ou 4 fois. Là, elle a réussi à ne plus boire pendant 4 ou 5 mois, je crois. Et donc, c'était trop bien, mais le fait de la sexualité n'était pas revenu, parce qu'après quelques semaines, on n'a plus trop eu de sexualité. Et donc, jusqu'à la fin de notre relation, on n'a pas eu trop de sexualité, finalement. Et donc, tu sais, j'étais entouré de gens épanouis sexuellement, et moi, j'étais le seul qui me masturbait dans la salle de bain tous les soirs. Et voilà, on s'est séparés. Après ça, j'ai revu la fille qui avait ses 2 enfants, mais qui n'était plus avec son mari. Et encore une fois, je pense que j'avais besoin d'un peu de sécurité, de me dire, ben, elle, je sais que je peux l'avoir, donc je vais la recontacter. Puis on est restés ensemble jusqu'à ce que je rencontre ma partenaire actuelle.
Ok. Donc, tu n'as jamais été seule, en fait ?
Bah, les 6 mois où j'étais entre Toulouse et Montréal,
ouais,
et après...
Enfin,
ouais,
entre 16 et 30 ans, t'imagines, t'as été 6
ouais,
mois
tout non, seul. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, il y a eu des petites coupures parce qu'avec mes 2 premières, on a eu des moments où on s'est séparés et tout, mais ouais, j'ai pas dû passer plus d'un an ou 1 an et demi tout seul depuis mes 16 ans. Ouais.
Ça te fait peur ?
Un peu, ouais. Bah, je me rends compte que c'est une dépendance affective, c'est assez clair. Du coup, je suis hyper content de ma relation actuelle, mais je me demande tout le temps, est-ce que je suis dans cette relation pour les bonnes raisons ? Et donc, tu sais, je suis amoureux, ça se passe bien et tout, mais je me dis, est-ce que cette relation n'est pas basée sur un problème d'affection de mon côté ? Et donc, ouais, c'est des réflexions que j'ai souvent.
Dès le départ de notre entretien, tu te définis comme non-binaire, pansexuel.
Ouais. Ouais.
Jusqu'à maintenant,
il n'y a eu que des filles, ouais.
Que des femmes hétéros.
Ouais, non, pas que des femmes hétéros, mais que des femmes, ouais.
Que des femmes. Elles n'étaient pas toutes hétéros.
Non, la deuxième, avec qui ça a été le plus compliqué, elle était bisexuelle.
Ah
elle
oui,
avait
c'est ce
passé...
que tu disais, oui, vous, une relation bisexuelle, oui.
Et d'ailleurs, maintenant, elle est thérapeute spécialisée dans les violences sexuelles et tout. Enfin, voilà, ça. Elle m'a fait vivre des violences sexuelles, mais c'est son métier de réparer les autres.
Quand tu dis qu'elle t'avait vivre des violences sexuelles, c'était parce que... Elle avait de l'emprise psychologique sur toi ?
Oui, mais il y a eu une violence sexuelle qui a été plus intense que les autres, qui est reliée à du psychologique aussi. Mais en fait, quand on était au Texas, elle est partie du jour au lendemain sans prévenir, alors qu'on était ensemble depuis 3 ans. Et donc, moi, j'ai passé 2 mois sans manger, sans dormir. Genre, c'était horrible, genre, les pires 2 mois de toute ma vie. Et au bout de 2 mois, elle a repris contact avec moi. Et elle m'a dit, bah, entre-temps, j'ai couché avec 2 mecs et tout. Donc, c'était hyper douloureux pour moi. Et moi, je n'étais pas prêt à recoucher avec elle quand je suis revenu chez elle après ce temps-là. Et seulement, ma blessure d'abandon était hyper, hyper fragilisée. Elle m'avait abandonné clairement pendant 2 mois sans contact.
Tu sais pourquoi ? Parce que tu peux effectivement avoir besoin d'être seul ou que sais-je, mais...
C'est un cumul de 10 000 choses. Je pense qu'elle a voulu reprendre sa vie en main. Tu vois, elle s'est mise avec moi quand elle sortait du lycée et elle n'a rien fait jusqu'à ce qu'on se sépare, en fait. Donc là, quand elle est partie du Texas, elle est revenue à Toulouse, elle s'est inscrite à une université de psychologie. Puis depuis ce moment-là, elle n'a jamais arrêté ses études et maintenant, elle est psychologue. Donc c'était quand même, ouais, c'est quand même une bonne chose pour elle de son côté.
Bien sûr.
C'est ça. Et donc, la violence sexuelle dont je voudrais parler, c'est en revenant du Texas, elle me dit qu'elle a couché avec deux mecs. En plus, deux mecs que je connais, je sais qui ils sont, puis je les méprisais à cette époque-là, en tout cas. Et donc, c'était encore plus blessante. J'avais vraiment l'impression qu'elle avait fait pour me blesser. J'ai pas dormi pendant une semaine quand elle m'a dit ça. Épuisé, mais lessivé, je sais pas quel est le mot le plus fort pour parler de fatigue, mais c'est, ouais, j'étais au bout du rouleau, quoi. Et au bout d'une semaine, alors que, comme je te disais, je bois pas d'alcool ou très peu, bah, j'ai bu un demi-litre de rhum avec du jus de fruits pour pas sentir l'alcool, tout d'un coup, comme ça, à jeun, pour essayer de m'endormir, alors que je pense pas que ça aide vraiment.
Ouais, spoiler alerte, c'est pas une bonne idée. Hein.
Bah, l'alcool, c'est jamais un médicament, à aucun moment. C'est très cool pour faire la fête, mais ça s'arrête là.
À consommer avec modération, bien sûr.
Ouais, et donc là, j'ai réussi à dormir toute la journée, mais je me suis réveillé avec la gueule de bois du siècle. C'était horrible. Et je sais pas si c'est ce jour-là ou dans les jours qui ont suivi, elle voulait avoir un rapport sexuel, et moi, je lui ai dit, je m'excuse, mais je suis pas prêt du tout. Mm-hmm. Genre, je sais que tu viens de coucher avec deux personnes que je méprise, j'ai vraiment l'impression que c'est fait pour me faire du mal et tout. Et en contextualisant, moi, je suis vraiment blessé du fait qu'elle m'ait abandonné pendant 2 mois. Et là, elle me dit, bah, si tu baises pas avec moi maintenant, bah, c'est fini, tu peux rentrer chez toi. Donc, bah, j'ai eu un rapport sexuel avec elle qui n'était pas du tout consenti, mais qui était là juste pour ne pas la perdre, quoi. Et bah, c'était horrible, évidemment.
Vous en avez reparlé ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. On est restés un an ensemble après ça. Et bah, c'était que ça. C'était tout le temps elle qui me rappelait à quel point tout était de ma faute et à quel point je lui devais tout et tout. Et donc, ouais, c'était un peu pourri.
Ouais, c'était très destructeur, cette relation.
Ouais, exactement. Ouais, c'était horrible. Et en fait, je savais que j'allais la quitter depuis que j'étais revenu parce que j'avais pris conscience que j'avais besoin d'elle pour sécuriser ma peur de l'abandon parce que j'avais peur d'être sans elle. Mais je savais que c'était pas ça et je savais que je finirais pas ma vie avec elle. Donc, j'attendais d'être prêt pour la quitter, mais ça venait pas. Et un jour, je suis allé chez un copain à moi que j'avais pas vu depuis des mois. Elle m'écrit, elle me dit, bon, ben, mon cours à l'université est annulé, il faut que tu viennes me chercher. Et moi, j'étais épuisé et tout. Je fais, non, je suis chez mon ami, là, je peux pas venir te chercher. Trouve une autre solution. Puis elle m'a dit, non, ma mère finit que dans 1 heure, elle peut venir me chercher que dans 1 heure, je ne vais pas attendre 1 heure, donc tu viens me chercher maintenant. Mmh. Et j'ai fait, bah non. Et là, elle m'a fait, bah si tu ne viens pas me chercher maintenant, c'est fini.
Donc c'est du chantage, coup, hein, clairement.
Ouais, bah, c'est encore une fois un ultimatum, quoi. Et tu sais, en sachant à quel point cette blessure était profonde, de mettre le doigt à chaque fois, tu sais, genre, je veux quelque chose, j'appuie sur ce bouton-là, tu sais. Ça a toujours marché jusqu'à ce jour-là. Ben, quand elle m'a dit, si tu viens pas me chercher maintenant, ben, c'est fini entre nous. J'ai répondu OK, puis j'ai éteint mon téléphone. C'était fini.
Ça t'a soulagé sur le moment ?
Ah ouais, ouais, énormément. Mais j'ai eu très peur aussi les jours qui ont suivi de ressentir.
Oui, quand on parle, on a l'impression effectivement qu'il y avait une crainte de cette femme.
Ah ouais, 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 clairement. Ouais. Ouais, c'est un peu bizarre parce que j'ai pas été élevé pour avoir peur de quiconque. Surtout, je suis assez grand, assez costaud et tout, donc j'avais pas. C'est la première fois que je me suis rendu compte que la peur, c'est pas que physique. C'est quelqu'un de plus petit, de plus jeune, de plus développé psychologiquement dans la méchanceté, si je peux dire, peut vraiment t'anéantir.
Bien sûr.
Donc moi, je m'étais toujours perçu. Je fais 1m85, je fais 90 kilos. Je me disais, personne ne me fera jamais de mal. Je suis le plus grand, je suis le plus fort. Et là,
L'histoire nous a montré qu'il y avait des tout petits qui ont réussi à faire des trucs de dingo. Hein. Donc,
ouais.
Ok, donc ça, c'est cette histoire qui a été très... qui t'a marqué, malheureusement pas pour les bonnes raisons. Donc là, on est arrivé à peu près au moment où, effectivement, tu vas rencontrer ta partenaire actuelle.
Ouais, exactement.
Donc, vous êtes ensemble depuis combien de temps ?
Là, ça va faire 3 ans, au mois de mars, là, le 9 mars.
Tu la rencontres dans le milieu queer, cette jeune femme ?
Sur Tinder aussi. Mais en fait, la stratégie que j'avais adoptée aussi sur Tinder... c'est que je regardais pas les photos et je lisais que les bios, en fait. Et ça veut dire que je suis passé de l'ancienne stratégie que je faisais avant, de regarder qui me plaît un peu physiquement, et après je lis la bio et je like ou je like pas. Et là, je me suis dit, je vais liker que genre 4 ou 5 profils par jour, mais vraiment des profils de personnes avec qui je sais que ça pourrait, on pourrait avoir une connexion. Genre, okay, je vais pas liker quelqu'un que je trouve super beau ou super belle. Je vais liker que des personnes avec qui je sens qu'il peut y avoir quelque chose, pas forcément une relation à long terme, mais une connexion, quoi.
Et là, tu commences aussi à liker les hommes à ce moment-là?
Ouais. J'ai liké plusieurs hommes. J'ai eu une date avec un mec.
C'était ta première date avec un homme?
Ouais.
Et alors?
Bah, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. C'était cool, il était très sympa et tout, mais ça m'a fait peur, quoi.
Qu'est-ce qui t'a fait peur?
Bah, encore une fois, c'est un cumul de mille choses, mais en fait, il ressemble beaucoup à mon papa, ce mec-là.
Ok, d'accord.
Donc,
ça peut s'arrêter là.
Ouais, bref. Après, c'est aussi le genre d'homme qui me plaise en général. C'est quand même des gars qui ressemblent assez à mon père. Et ce qui est marrant, c'est qu'il ressemble à mon père physiquement, mais qu'il a une attitude extrêmement efféminée. Donc, c'est un mélange un peu bizarre, parce que mon père n'est pas du tout efféminé.
Donc, un peu burlesque, une caricature un peu burlesque de ton père.
Exactement, quoi. Ouais. Et donc, ça s'est très bien passé. On a passé une bonne soirée et tout, mais il s'est rien passé.
T'étais dans la séduction avec lui ?
Par message, ouais. Puis quand il était à la maison, après, pas du tout. J'étais en mode un peu, je veux pas qu'il voit que j'ai peur, mais il va rien se passer. C'était un peu bizarre. Alors, moi, j'avais de l'attirance, mais en même temps, j'avais peur, pas de lui, pas qu'il me fasse mal ou pas qu'il m'agresse ou quelque chose. J'étais confronté à quelque chose à l'intérieur de moi et je me disais, ah, je suis pas prêt en fait.
Ouais. Et tu lui as dit après, par message ?
Je pense que je lui ai dit avant, je lui ai dit que malgré le fait que j'ai la vingtaine bien avancée, j'ai jamais été avec deux mecs et tout. Et il a été hyper compréhensif, c'est aussi pour ça que je l'ai permis de venir chez moi. Parce qu'il m'a dit, inquiète-toi pas, s'il se passe rien, il se passe rien. Genre, je viens pas ici juste pour avoir du sexe, je veux passer du temps avec toi et tout. Donc il était vachement rassurant quand même, quoi.
Et il t'a mis en sécurité pour le coup.
Il m'a mis en sécurité. Puis j'ai passé une très bonne soirée. Puis c'est quelqu'un pour qui j'ai tout le respect du monde. J'ai aucune antipathie envers lui. C'est juste que ça a pas,
ouais, ça s'est pas développé. Chez toi, quoi.
Exactement, ouais. Je pense que la peur qu'il y a en moi, elle est vachement teintée de tabou, tu sais.
Bien sûr. Là, elle est très culturelle, hein, ta peur.
Ouais. Puis c'est vachement de l'homophobie internalisée aussi. Enfin, c'est quelque chose qui est construit et reconstruit et qui est hyper solide. Donc, c'est hyper dur à déconstruire, malgré le fait que je sois dans le milieu queer depuis la moitié de ma vie et tout. C'est des trucs qui sont vachement durs à détruire.
Et donc là, on est à quelques encablures de rencontrer ta partenaire d'aujourd'hui. Donc, ouais. Tu la rencontres sur Tinder.
Donc, c'est à cette période-là où je te disais tout à l'heure que j'ai rencontré 5 personnes en 5 jours. Et elle, je pense que...
Tu as les cheveux roses à ce moment-là et t'es beaucoup plus affirmée dans ton expression de genre fluide.
Ouais, exactement. Et donc, bah, ça se passe super bien. Je rencontre plein de gens hyper intéressants et tout. Des filles trans, des personnes non-binaires, des... Genre... une multitude de profils, genre 5 personnes, 5 profils différents, quoi, vraiment. Et bah, je pense que ma compagne actuelle était dans ces 5-là, ou juste après, ou à cette période-là, en tout cas. Puis quand on s'est rencontrés, elle est venue chez moi, puis on a discuté beaucoup. On a couché ensemble 3 fois, je pense. Et là, on s'est endormis les uns l'un dans les bras de l'autre et on a dormi 12 heures à la suite tous les deux. Genre, on s'est couché à 6 heures le soir et on s'est levé à 6 heures le matin. C'était comme s'il y avait un relâchement qui s'était opéré. Genre, enfin, je me sens bien, enfin, je me sens compris, enfin, je me sens safe et tout. Et du coup, c'est ça, ouais.
Et votre sexualité avec tous les deux, comment elle se passe, cette intimité? Parce que ça va faire 3 ans.
Ça va faire 3 ans, donc on a trouvé notre rythme. Au début, c'était très intense parce que c'était le début, comme toujours. Une ou deux fois par jour, tous les jours. Et après quelques mois, ben, on habitait chacun dans notre appartement respectif, mais on était tout le temps ensemble. Et après, il y a le confinement qui est arrivé. Et le confinement a fait qu'on est restés ensemble pendant 10 mois à la suite, en fait. 24 heures sur 24. Et ben, ça a totalement coupé notre sexualité, en fait.
Ah mince.
Moi, j'étais chez elle. Et bah là, notre sexualité a totalement disparu, en fait.
Parce qu'au Canada, c'était comme en France, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas du tout sortir.
On pouvait marcher un peu dans la rue, on pouvait aller à l'épicerie et tout, mais on ne pouvait pas faire... tu vois, on devait sortir juste faire les courses une ou deux fois par semaine, et après, on était tout le temps à la maison ensemble.
Et ça a complètement stoppé votre libido?
Ouais, carrément, ouais.
Tu l'expliques comment?
Bah, je pense que c'est... Il n'y a plus de limite entre la routine d'une journée et la séduction et le désir et tout. Genre, tout devient hyper homogène et tout est tout le temps pareil.
Bien sûr.
Tu sais, quand tu te vois, quand tu travailles, tu rentres le soir et tout, tu n'as pas les mêmes horaires. Tu vois, il y a quelque chose qui peut... Il y a des rythmes différents qui peuvent rester, mais là, c'était vraiment tout le temps la même chose, quoi. Donc, c'était super parce qu'on était ensemble tout le temps, on regardait plein de séries, on faisait vachement de câlins, on se tenait tout le temps la main et tout, genre... C'était vraiment bien, mais par contre, la sexualité a complètement disparu, quoi.
Et toi, au-delà de la sexualité de couple, toi, niveau masturbation, pareil ?
Non, j'ai jamais arrêté la masturbation. J'ai jamais arrêté depuis toujours. Ben, c'est sûr que quand j'avais deux rapports avec elle ou avec quelqu'un d'autre par jour, je ne me masturbais pas. Mais dès que je n'ai pas de relation sexuelle sur une base régulière, ben, je me masturbe, mais, ouais, une ou deux fois par jour, presque tous les jours.
Et vous avez réussi à retravailler cette libido, ce désir?
On a beaucoup essayé, mais non, on n'a pas réussi à reprendre un rythme. Tu vois, c'est vraiment occasionnel. Quand ça arrive, c'est, on va dire, une fois tous les deux mois, mais c'est pas du tout régulier, quoi.
Vous en parlez?
Ouais, on essaye d'en parler. En fait, c'est toujours moi qui initie le truc. Du coup, moi, j'ai un peu l'impression de trop demander. J'avais instauré un truc, tu sais, je disais, bah, si tu veux, on n'a qu'à décider d'une date et d'un jour. On se dit, à ce moment-là, on va avoir un rapport sexuel. Et donc, on a fait ça deux, trois fois, mais même ça marchait pas vraiment.
Enfin, ça peut stresser un peu.
Ouais, parce que quand le moment arrive, tu sais, tu viens, puis tu sais que c'est calculé et tout. Donc, mais pourtant, on a envie, et quand ça marche, et ça marche bien, et on prend beaucoup de plaisir et tout. Mais en fait, c'est passer au-dessus de la petite gêne qui est le plus dur, en fait. C'est juste ça.
C'est quoi la petite gêne?
Ben, je dirais qu'il y a vachement de tendresse entre nous. Et le fait de passer de la tendresse à la sensualité ou à la sexualité, il y a un petit moment entre les deux. Et c'est cette petite gap-là qui est dure à passer, en fait.
Mmh, je comprends. Et tu penses que le manque de libido, il est partagé?
Non, je ne pense pas du tout. Non, parce qu'on en a discuté, puis elle a du désir. Autant que moi, ou en tout cas, elle a du désir, puis elle se masturbe aussi de ce qu'elle m'a dit. Donc, c'est pas un manque de désir, c'est juste qu'on n'arrive pas à se connecter, en fait.
Vous n'arrivez plus à vous connecter, ouais.
Ouais, exactement, ouais.
Et quelles sont les solutions que vous allez mettre en place, ou auxquelles vous avez pensé, ou auxquelles toi, tu as pensé?
Moi, j'ai pensé à acheter un sextoy, un vibrateur pour elle, parce que le sien était brisé, puis... moi, je trouve que c'est un bon allié pour moi, mais c'est pareil, ça n'a pas vraiment marché. Donc, ça a marché deux, trois fois, puis après, on l'utilise quand on a des rapports, on l'utilise, mais bon, comme ça n'arrive pas, bah... Et après, bah, j'avais mis ce truc-là de rendez-vous, de dire, tiens, tel jour à telle heure, est-ce que tu es d'accord? Oui, bon, bah, ça va arriver, mais ça ne marche pas trop non plus. Donc, pour l'instant, je ne vois pas trop d'autres options. Après, on avait déjà consulté une thérapeute de couple aussi ensemble.
Ouais.
Et je pense que je vais proposer à ma compagne qu'on la recontacte pour parler de ça. Parce que la situation est tolérable, mais ça ne peut pas se passer comme ça toute la vie, en fait.
Oui, puis même pour vous deux, ça doit,
ouais, c'est ça.
Ça doit vous peiner aussi l'un envers l'autre, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il y a beaucoup de tendresse, qu'il y a une belle complicité. Et surtout,
ouais,
ça a fonctionné. C'est ça,
ouais,
qui est compliqué, c'est que quand ça ne fonctionne pas du tout depuis le début, bon... Mais
ouais,
ça, il y a eu des chouettes moments avant le confinement. Donc,
mais c'est ça, en fait, le seul blocage, c'est de démarrer, en fait. Parce qu'une fois que c'est démarré, toutes les dernières fois où on a eu des rapports, ça s'est toujours très bien passé. C'était très agréable pour nous deux et tout. Mais là, ouais, je pense qu'en 2 ans, depuis qu'on habite ensemble, on a dû avoir peut-être 10 rapports sexuels. Donc, ouais, c'est...
Ouais, et quand c'est... vous en parlez, dans quel état émotionnel vous êtes?
Bah, vachement à l'écoute. Donc, ça, c'est assez bien, mais en même temps, c'est un peu frustrant parce que tu te dis à chaque fois que tu parles, tu te sens écouté et tu essayes de trouver des solutions. Puis à la finalité, il n'y a pas de solution, puis ça ne marche pas. Donc,
Et alors, question, est-ce que ouvrir votre couple, changerait la les choses, tu penses ?
On en a déjà parlé, on en a toujours parlé, en fait. Venant tous les deux de milieu queer, c'est quelque chose qui existe dans nos, dans nos imaginaires. Je ne sais pas, faudrait qu'on en parle parce que moi, j'ai toujours peur un petit peu de la vexer et de la brusquer. Et comme j'ai cette peur de l'abandon, j'ai peur qu'elle me quitte, en fait, si j'ouvre ce genre de sujet.
Pardon, parce que la violence de ma question, mais qu'est-ce qui se passe si tu es tout seul ?
Ben, rien, en fait. J'ai été tout seul et ce n'est pas si horrible que ça.
Mais... C'est bien d'être tout seul parfois, hein, de se rencontrer soi-même.
Ouais, c'est clair. C'est vraiment bien, mais... Je l'aime et j'ai pas du tout envie d'être sans elle.
Pour ta partenaire, ça, j'en doute pas un seul instant. Ouais. Mais cette peur de l'abandon, elle n'est pas inhérente à cette femme. Elle vient de tout ton parcours.
Exactement. Donc, ouais. Mais je pense que le traumatisme que j'ai vécu au Texas, où, comme je t'ai dit, j'ai pas mangé pendant 2 mois et tout, ça, c'est une ombre qui reste toujours un peu derrière le tableau, qui est toujours présente.
Et dans ta sexualité aujourd'hui, donc effectivement avec ta compagne, là, vous traversez une zone de turbulence et en tout cas, vous avez envie d'avancer là-dessus. Et toi, dans ta définition de non-binarité, de pansexualité, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'essayer ? Est-ce qu'il y a des partenaires que tu as envie de rencontrer ? Alors évidemment, t'es en amour là, avec la jeune femme qui partage ta vie, mais est-ce que à terme, si tu projettes, Il y a des choses que tu as envie de faire ?
Ouais, évidemment. Étant attiré par à peu près tous les corps qui existent, j'ai pu essayer qu'une petite majorité de ce qui m'attire. Et donc, c'est un peu frustrant. Je me dis, si ça continue comme ça, ça ne va pas continuer comme ça éternellement, parce que ça ne peut pas continuer comme ça éternellement. Mais dans l'image actuelle, c'est un peu frustrant de me dire, j'ai 30 ans, je sais depuis presque la moitié de ma vie que je suis attiré par d'autres genres et j'ai toujours été dans le même schéma finalement. Donc oui, je suis attiré par des sexualités avec d'autres personnes, par des sexualités peut-être un peu moins vanille aussi, par des sexualités peut-être à plusieurs, je ne sais pas trop. Moi, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir comblé... ma recherche sexuelle, quoi.
Après, tu n'as que 30 ans, hein, donc il y a encore...
Ouais, c'est clair. Ouais.
Encore le temps.
Non, ça ne me fait pas vraiment peur, mais c'est vrai que je me sens, en ce moment, un petit peu coincé, puis j'ai l'impression que cette frustration sexuelle que j'ai depuis 2 ou 3 ans, elle nourrit un peu cette envie de faire autre chose et tout, donc je suis aussi vacciné d'écrire à d'autres filles et tout, comme je faisais avant dans mes anciennes relations. Mmh. Mais du coup, j'ai pas ça non plus qui me sert d'exutoire ou de support. Ouais. Donc, j'ai ma sexualité, moi tout seul, face à mon téléphone et à OnlyFans, et c'est tout. Quoi.
Je voulais te demander, c'est un truc que j'ai envie de mettre en place là, à partir de cet épisode-là, parce que ça va faire 3 ans que le podcast existe.
Bon anniversaire.
Merci. Je voulais savoir lequel des épisodes que tu avais préféré.
Celui de Gilles.
Gilles.
Ouais.
Coucou Gilles.
Quand je l'ai écouté, je me suis dit, genre, j'ai aucun doute, c'est vraiment mon épisode préféré. Genre, ça m'étonnerait qu'un autre épisode le détrône.
Ah ouais, j'avoue ouais, que
tout Gilles à fait est... passionnant. Ouais, mais en fait, il ressemble exactement un peu à l'image que je me suis déjà fait de moi-même. Dans un fantasme de moi dans le futur, par exemple.
Ok. Dans des sexualités très extrêmes ?
Très libéré, plus que très extrême, tu sais.
Alors, il a des pratiques quand même qui sont...
Ouais, mais ça, j'ai pas vraiment de tabou quant aux sexualités extrêmes. Mm-hmm. Donc, les trucs duro et tout, ça me dérange pas, ça m'excite pas outre mesure, mais si je ressens de l'excitation chez l'autre personne, ça pourrait m'exciter aussi. Okay. Donc. Mais le fait de... À quel point il est totalement libéré sur ces sujets. Ouais, j'ai vraiment adoré cet épisode. D'ailleurs, je pense que je vais le réécouter bientôt.
Ça marche. Ok, c'est cool.
Et j'ai aussi beaucoup aimé Mathéo, le dernier.
Ah oui, Mathéo.
Qui est sorti.
T'aimes bien les daddies, en fait. Hein.
Ouais, daddy issues. Hein. Comme je disais, le seul date que j'ai eu avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui ressemble à mon père. Donc...
Il y a un truc, demain matin, tu reparleras à ta thérapeute sur le sujet. Il y a un truc. C'est vrai que l'épisode de Mathéo qui est sorti, récemment, c'est le 63, a pas mal plu aussi. Là, j'ai eu pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui ont bien aimé sa vision du sexe qui est trop à droite.
Ouais, j'ai adoré cette phrase. Ouais.
Ok, Raphaël, ça va faire un petit bout de temps qu'on discute, toi et moi.
Ouais.
Qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure cet épisode ?
Ma perception du monde en général est non binaire, donc que ce soit, comment dire, politique ou que ce soit sexuel, que ce soit une identité de genre et tout. Et j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on perçoive plus les choses avec plus de nuances. Ouais, j'aimerais bien que les débats en général soient plus nuancés, et que les personnes soient plus nuancées, et qu'on accepte aussi que les personnes soient et des personnalités multiples et qu'on ne mette pas tout le monde dans telle case par rapport à, par exemple, une sexualité, mais par exemple à un métier ou une origine sociale ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, moi, je me considère comme une personnalité plurielle et j'aimerais bien que être perçu comme ça et que les gens se perçoivent comme ça aussi. Par exemple, tu vois, mon travail en ce moment, c'est d'être enseignant de boulangerie. Donc, quand je suis à l'école en train d'enseigner, ben, je suis monsieur le professeur. Genre, je suis grand, je suis costaud et j'ai ma moustache et mon mulet, genre.
Mais... Tu ressembles un peu à, effectivement, un producteur de porno des années 70.
Exactement, Tom Selleck ou à San Francisco. Exactement. Donc, j'ai cette image-là, mais ça ne veut pas dire que quand je suis dans un club gay ou quand je vais à mon événement préféré, qui est un strip karaoké qui est à Montréal, ben, je suis hyper efféminé, puis hyper, hyper pédé, quoi. Et je trouve ça trop bien, mais j'ai le même physique, mais la perception qu'ont les gens de moi est vachement différente, et même la perception que j'ai de moi à ce moment-là est vachement différente aussi. Et ça ne veut pas dire que je change ma personnalité, ça veut juste dire que ma personnalité est multiple et que je suis ces deux personnes et que je suis ces mille autres personnes que je suis aussi dans mille autres situations. Voilà.
Merci beaucoup, Raphaël.
Ben, merci.
Merci pour votre écoute et merci infiniment à Raphaël pour sa confiance et sa sincérité. J'ai passé un excellent moment à ses côtés, même si on en était loin, c'était vraiment un super échange. Et puis cette coupe mulet, clairement incroyable. Alors, Edith, entre-temps, il l'a fait couper, il m'a envoyé une petite photo et il reste quand même très joli garçon. Merci encore pour votre fidélité. Comme je le disais dans l'introduction, votre soutien, comme vous le savez, le podcast est indépendant et votre soutien en DM sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Apple Podcasts, ça prend 30 secondes, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un compte à mettre un avis des étoiles, c'est super déjà. Merci beaucoup et à très bientôt dans un nouvel épisode de On the Verge.